Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Faisons le point sur la guerre entre Israël et le Hamas. Première chose qu'on peut dire ce matin, c'est que le camp de réfugiés a été bombardé pour une deuxième fois et l'armée israélienne a revendiqué cette deuxième attaque. Au minimum, 195 personnes ont été tuées. Il y aurait plus de 125 disparus et probablement des centaines de blessés. On parle d'un camp où il y a 116 000 personnes d'entassées. Et Israël, évidemment, donne toujours le même argument. Des agents du Hamas, des militants, des miliciens du Hamas sont cachés à l'intérieur de ce camp. Il faut donc attaquer le camp. Les Nations unies ont réagi très rapidement après la première attaque, et ce sera encore plus vrai avec les événements des dernières heures, probablement qu'Israël a commis des crimes de guerre. Parce que la cible, un camp de réfugiés, l'intensité des bombardements, le nombre de blessés, de victimes, tous ces éléments mis ensemble, laissent croire, c'est l'hypothèse soulevée par les Nations unies, qu'on a affaire à des crimes de guerre. Ça a été évidemment rejeté par Israël. Entre-temps, il y a un deuxième volet à cette opération qui vise à évacuer, mais ce sont blessés et des ressortissants étrangers en nombre très limité, qui peuvent se diriger maintenant vers l'Égypte. C'est un peu plus élevé qu'hier. C'est le fruit d'une entente entre plusieurs pays, évidemment l'Égypte, le Qatar a joué un rôle, Israël, les Américains. Donc cette opération se poursuit ce matin. Et il faut ajouter, selon les chiffres de Médecins sans frontières, qu'environ 20 000 blessés et des blessés graves se trouvent encore dans la bande de Gaza. Et du côté de Gaza, on affirme que depuis le début de l'offensive israélienne, il y a environ 3 000 enfants qui ont perdu la vie. Et ce sont ces images. Peu importe le camp dans lequel on se trouve, ces images de civils israéliens, de civils palestiniens, de femmes, d'enfants enlevés, torturés, tués, il y a quelque chose d'insoutenable. Et malgré les appels répétés de la communauté internationale à Israël de faire une pause, une espèce de cessez-le-feu, le premier ministre Netanyahou a été très clair. Il a dit « cette guerre sera longue ». Il y a des pertes aussi, des pertes humaines du côté israélien. Alors voilà pour ce bilan concernant la guerre entre Israël et le Hamas. Parlons d'immigration. Alors, Ottawa, Québec nous ont présenté leur plan, leur stratégie. On va parler plus tard avec la ministre Christine Fréchette. Mike Miller, je vais commencer avec le fédéral, nous arrive en disant, écoutez, on vous a entendu, là. Les sondages montrent que les Canadiens sont un petit peu moins ouverts. C'est pas une question de racisme, de xénophobie. C'est pas d'être fermé sur les autres. C'est de dire, on a une crise du logement qui est exacerbée par la présence d'une population qui prend de l'ampleur chaque année. Ce matin, le Globe and Mail dit il y a 2 200 000 personnes au Canada, 2 200 000, c'est énorme, qui sont en attente d'un statut. Et là, M. Miller joue avec les chiffres et nous dit, regardez, on vous a compris, là, ultimement, c'est 500 000 personnes qui vont entrer au Canada. Ben, Québec a dit, ben nous, là, c'est 50 000, puis après ça, on ajoute un 6 000, puis potentiellement aussi avec des immigrants économiques, on va se ramasser à 62 000. Ce chiffre-là, ou ces chiffres-là, veulent pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce que il faut tenir compte des immigrants qui viennent comme résidents, des travailleurs étrangers, des étudiants étrangers, des réfugiés. Donc, le Québec, prenons cet exemple-là, accueille combien de personnes par année? Et quels sont aussi les services disponibles pour ces gens qui viennent? Il y a tout le débat sur les universités, sur la protection du français. On est très conscient de ce débat. Je parlais la semaine dernière avec Stéphane Marion, économiste et stratège en chef de la Banque nationale du Canada. Quand on parle d'inflation, de taux d'intérêt élevés, il a soulevé un angle mort, lui, sur la question de l'immigration.
Le problème à Ottawa, ou l'enjeu pour Ottawa, c'est l'augmentation phénoménale de la population. Là, on carbure encore avec une croissance d'un million d'individus cette année, après avoir fait un million, ce qui est un record de tous les temps l'année passée. Donc, ça nous amène à un déséquilibre historique par rapport à la demande de logement versus l'enjeu de logement, ce qui reste fait dans l'inflation. Comment vous pouvez, avec les hausses de taux d'intérêt, contrôler cette croissance phénoménale de population? Je pense que la solution vient d'Ottawa, qui devra vraisemblablement réduire ses quotas d'immigration.
Alors, voyez pourquoi c'est pas clair, les propos de Mark Miller, et pourquoi on n'arrive pas à avoir ce portrait. Et c'est de la gymnastique politique qu'on fait pour dire aux gens, écoutez, c'est pas si pire que ça, on vous a entendu. Mais il faut toujours avoir le portrait global, parce que ce sont des êtres humains qui arrivent avec un statut qui varie. Et il y en a qui sont ici temporairement, il y en a qui sont ici pour des raisons économiques. Et regardez ce que le fédéral veut faire. Une des cibles, c'est de prendre l'immigration francophone pour diriger ces immigrants, donc, qui parlent français, vers d'autres provinces pour donner un peu de support aux franco hors Québec. Et nous, on veut attirer des francophones parce qu'on veut protéger la langue française et on déploie des moyens dans ce sens-là. Puis je vous le dis depuis le début, la politique sur les universités, je suis pas très convaincu de l'approche, là. Puis on voit le lobby, par exemple, pour protéger Bishop. Et j'ai toujours pensé que d'abord, je comprends l'importance de protéger le français, mais le rayonnement des collèges, des universités à travers le monde, ça aussi c'est majeur pour le Québec à court terme et à moyen terme. Deuxième dossier ce matin, puisqu'on parle de logement. D'abord, la presse nous apprend que pour obtenir un permis de construction à Montréal, ça prend plus de temps que jamais. Encore là, vous avez le discours politique. La spécialité de la Ville de Montréal, c'est d'inventer le nombre de logements. Quand on leur dit, coudonc, vous avez créé combien de logements sociaux? Pratiquement pas. Votre politique qui forçait les promoteurs, les entrepreneurs à construire, sinon à payer, ça marche pas ça non plus. Donc, vous demandez de l'argent, puis vous dites, le logement, c'est important, puis les logements coûtent de plus en plus cher. Or, à la Ville, c'est d'une complexité. Je comprends qu'on ne peut pas construire n'importe quoi, mais il y a des limites. Et ce qu'on voit ce matin, c'est que les délais varient selon les arrondissements. Mais en moyenne, là, c'est une augmentation de 34 % 34 % pour avoir un permis. Puis là, si vous pensez que le permis, là, c'est en termes de semaines, ça dépend. Là, parce qu'on va vous dire qu'officiellement, le nombre de permis, ça peut être plus rapide, mais c'est parce qu'il y a moins de demandes, parce que les gens veulent construire moins. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Par exemple, dans l'arrondissement Ville-Marie, ils font en moyenne 106 jours pour l'obtention d'un permis, comparativement à 40 jours avant la pandémie. Et encore là, c'est un leurre, parce qu'il faut que tu présentes ton projet. Il peut être renversé par un comité d'urbanisme. Avant que le comité décide de l'approuver, ça peut prendre une éternité. Il y a des arrondissements qui se spécialisent dans ça. Puis après ça, ça va au conseil. Puis après ça, à la ville-centre. Donc, il y a des promoteurs immobiliers qui témoignent ce matin d'attentes, d'investissements qui tournent dans le beurre. Et, par exemple, le PDG de construction Tomico qui dit « Ça m'a pris environ 6 ans pour construire un immeuble de 4 logements dans une rue résidentielle de La Salle. » Et là, on a le mantra de la Ville de Montréal. On est tout à fait conscient de ça. Nous avons une cellule pour faciliter les choses entre la Ville, le promoteur, le besoin du citoyen. Perso, je ne suis plus capable d'entendre ça. Mais, tu sais, le discours, là, puis la crise du logement, c'est important. Là, les élus sont sur les barricades. On se rend compte que, on peut pas dire que le bilan, la performance de la Ville à cet égard est très spectaculaire. Et puis un dossier aussi dans la presse ce matin concernant les soins à domicile. Je vais vous raconter une histoire pour commencer. Courriel que j'ai reçu durant la nuit. C'est un jeune homme qui s'appelle Frédéric. Il a 28 ans. Il souffre de dystrophie musculaire de Duchenne. Il a un DEC en informatique et un bac pour créer des jeux vidéo. Il travaille. Il a créé son propre studio. Et il y a des services qui lui sont offerts par son CLSC. Malheureusement, il a été hospitalisé pour un AVC. Donc, il a informé le CLSC que pendant qu'il était à l'hôpital, il n'y avait pas besoin de service. Il l'a annulé et il a pris contact avec eux à son retour. Et ça, les services offerts, là, c'est essentiel pour son autonomie et pour sa santé. Puis c'est un exemple que je vous donne. Depuis qu'il est de retour, il n'a pas eu de douche. Alors qu'en principe, le service avant, c'était de 2 à 3 fois par semaine. Quand j'appelle, on me dit que la préposée est sur la route. 2 heures plus tard, personne. Le prochain jour de service, même chose. On me dit que les ordinateurs sont en panne. J'ai contacté la direction qui m'a dit que j'aurais mon service aujourd'hui. Je ne l'ai pas eu. Là, on nous a dit que c'est la préposée qui a un problème avec la voiture, sa voiture. Il y a toutes sortes de raisons. C'est un exemple. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en catimini, quand le gouvernement a dit il faut se couper des agences de placement dans le réseau de la santé, les infirmières, on s'est donné des cibles, que c'est faisable, pas faisable, c'est une autre question. Mais on a touché aux entreprises qui font des soins à domicile. Et ce que Fanny Lévesque nous raconte ce matin, c'est qu'il y avait une procédure qui était simple. Les CIS disaient à ces agences, voici la liste de patients, voici ce que vous devez leur donner comme service, puis arrangez-vous pour le faire. Et il y avait une continuité. Donc, si vous êtes une personne âgée, vous avez droit à 2 bains, ben normalement, c'est la même personne qui allait chez vous. Il y avait, appelons ça, un système qui se gérait. Ben là, les fonds-fonds veulent pas ça. Les fonds-fonds veulent mettre la main là-dessus, pensant subtilement qu'ils vont attirer du personnel. Alors là, maintenant, depuis le début octobre, c'est le CLSC, par exemple, qui gère l'affaire. Et quand je vous dis ça, là, ça veut dire qu'il faut qu'il se rapporte au CLSC. On signale depuis la mise en service de cette nouvelle approche une série de problèmes. Il y a, puis je vous en donne quelques-uns, là, puis on va détailler ça tantôt, mais un monsieur qui a reçu la visite de 3 préposés en même temps, on a remis l'horaire de la semaine précédente à un préposé, donc il n'a pas pu se rendre chez des gens. Ça marchait. Les fonds-fonds ont dit, nous autres, on veut s'approprier ça parce qu'on est convaincus qu'on va recruter des gens dans le réseau de la santé en faisant ça. Une dame âgée qui reçoit différents préposés chaque matin et soir pour mettre et retirer ses bas, je pourrais vous en donner une liste longue. Ça marchait. Il n'y avait pas de plainte. Là, la raison qu'ils nous donnent, oui, mais on veut savoir qui sont ces gens. On veut s'assurer de la qualité. Ça, c'est la ministre Sonia Bélanger. Et réponse du mammouth, classique, nous sommes en période de mitigation. Ça veut dire on s'est mis dans le trouble, on a plein d'erreurs, on est dans la paperasse, et la mitigation, c'est d'essayer de limiter les dégâts actuellement. Il y a cette caractéristique assez extraordinaire de venir jouer dans un service qui fonctionne. Tu sais, ça va assez mal à bien des places, pourquoi s'entêter? Un autre grand mystère du mammouth. On a tendance à oublier que les problèmes ne sont pas tous réglés à la Société d'assurance automobile du Québec. Une autre caractéristique de la bureaucratie, c'est d'être en catimini de façon silencieuse et de pas trop parler des problèmes. Et pourtant, il en reste encore. D'ailleurs, c'est extraordinaire, c'est quand ça marche, il faudrait quand même les féliciter. Mais je vous donne 2 exemples ce matin. Un auditeur qui m'écrit, hier, il accompagne bénévolement un jeune Guinéen à la Société d'assurance automobile pour son examen écrit pour le permis de conduire. Son rendez-vous, 11h20. Il est 15h05 et nous sommes toujours sur place. Vers 12h45, il y a eu panne des écrans à la Société d'assurance auto, en tout cas dans cette succursale. Cafouillage dans les numéros. Il y a une personne qui est arrivée avec sa valise, c'était sa seconde visite. Et on était comme coincés à l'intérieur pour avoir du service. Une autre histoire de prise de rendez-vous qui n'a pas fonctionné. des problèmes avec l'appareil photo. La personne en question s'est rendue là la semaine passée. Les systèmes étaient en panne dans plusieurs succursales. Elle s'y est rendue deux fois. Il est retourné en fin de journée parce que là, les systèmes avaient finalement pu fonctionner. Mais là, il y avait un enjeu d'appareil photo. Je veux dire, c'est toujours la même affaire. Puis j'en parle pas tous les jours, mais quand même. Et je ne comprends pas que le ménage est pas plus important que ça à la Société d'assurance automobile du Québec. Et je vous parlerai même pas d'Éric Kerr. Tu sais, c'est un dossier clos. C'est un incompétent. Il doit avoir collecté des dettes politiques pour garder sa job de ministre, mais il y a des gens qui se font déboulonner pour moins que ça. Mais non. Lui est en charge là, du grand virage numérique que le gouvernement du Québec veut prendre. Le dossier du tramway. Le maire de Québec, Bruno Marchand, sera avec nous. En gros, là, c'est confirmé dans la presse aussi ce matin par Francis Veil. Il n'y a personne qui veut financer le projet. Donc, les consortiums disent on n'est pas capable d'aller de l'avant. Et c'est pour ça qu'on se retire. La Ville de Québec dit, nous allons être maître d'œuvre. Puis on va le faire. Puis on veut le faire. C'est plus de 8 milliards. Puis on sait que le chiffre d'aujourd'hui est un chiffre inférieur à la réalité. Et là, tu te dis, mais quand même, là, 8 milliards pour un tramway, c'est pas non plus le moyen de transport le plus populaire à Québec, on l'a vu dans un sondage. Et le premier ministre Legault a été prudent et gentil en disant, c'est pas mal cher votre affaire. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'améliorer le transport en commun? Puis d'offrir peut-être des alternatives. Puis en même temps, on apprend qu'il y a un pacte fiscal qui a été réglé, on n'a pas les détails, entre les villes et Québec pour ce qui est notamment des changements climatiques. Et là, il reste les enjeux de transport en commun. Mais est-ce que, collectivement, on ramasse une facture de 8 milliards pour un tramway à Québec? Et moi, je me souviens de l'époque du chantier olympique. Il y avait eu le rapport Malouf. Quand la ville de Montréal était maître d'œuvre du chantier, ça a été une catastrophe. Ils n'avaient pas les ressources. Il y avait de la fraude, la corruption, des camions qui entraient pleins sur le chantier, qui ressortaient pleins. Ça a été vraiment un désastre. Et pour s'assurer que tout ça soit attaché pour les Jeux, on a retiré le dossier à la ville de Montréal et c'est Québec qui a fini la job. Donc, quand même, c'est, je pense, un dossier qui... on a l'impression qu'on étire, là. Tu sais, puis qu'on va nous arriver dans un an en disant, mais finalement, savez-vous, on n'est pas en mesure de faire ça. Et puisqu'on parle de transactions, on sait que Northvolt a acheté pour 240 millions un terrain majeur, donc. Et ce terrain appartenait à l'homme d'affaires Luc Poirier et ses partenaires. C'est probablement la vente la plus importante de terrain jamais vue. Il avait fait l'acquisition des terrains pour 20 millions en 2015. Là, ça se vend 240 millions. Il a dû avoir des travaux, notamment pour décontaminer, mais entre vous et moi, il vient de faire toute une passe. Et ce sont d'immenses terrains à Saint-Basile-le-Grand, McMasterville. On aurait voulu lui parler ce matin, il veut pas. Il est un peu discret sur ces questions-là. Mais c'est un investissement qui lui rapporte quand même pas mal. Et puis je vais revenir, je termine là-dessus, sur cette décision de la Cour supérieure qui reconnaît des droits à la communauté Mohawk de pouvoir acheter, importer et vendre du tabac en grosse quantité sans avoir à payer les taxes. Et cette décision qui a été rendue par la juge Bourque de la Cour supérieure, c'est une reconnaissance des droits acquis au fil du temps par la communauté Mohawk. Alors, les deux individus impliqués dans cette cause-là avaient acheté des quantités importantes. On les accusait d'avoir fait entrer au Canada des camions remorques remplis de tabac puis d'avoir vendu ça. Et ce que la Cour, peut-être que ça va se ramasser en Cour suprême ultimement, mais la juge Sophie Bourg dit « Le tribunal conclut qu'il existe dans le dossier des preuves concluantes que le commerce du tabac améliore le bien-être économique et la qualité de vie de la communauté dans son ensemble. » Comprenez pourquoi il y a des enjeux quand même, strictement au niveau des taxes.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas.
Ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Ottawa et Québec ont présenté leurs cibles en matière d'immigration. Il y a quand même pas mal de lumière à faire sur les chiffres qui ont été présentés. La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration est avec nous, Christine Fréchette. Madame Fréchette, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
D'abord, question très simple en commençant. Quand on combine les gens qui viennent au Québec avec différents statuts, des gens qui sont résidents temporaires, des travailleurs étrangers, des étudiants, des réfugiés, pour 2024, vous prévoyez combien de personnes au Québec qui vont débarquer par ces filières?
Ben, c'est difficile à dire parce qu'il y a une partie de ces gens-là dont on ne planifie pas, on ne peut pas planifier à l'avance leur arrivée au Québec. Et j'ai en tête particulièrement les demandeurs d'asile qui arrivent maintenant de manière régulière à l'aéroport. On voit que leur nombre va croissant. Et ça fait en sorte de gonfler le nombre de personnes qui sont sur le territoire québécois. Et c'est pour ça qu'on demande au fédéral d'intervenir, parce que là, le Québec assume une trop grande part de l'accueil de ces personnes. En 2022, le Québec a accueilli davantage de demandeurs d'asile que l'ensemble des provinces, des autres provinces canadiennes réunies. Et à ce jour, en 2023, ça continue d'être le cas. Ça vous donne une idée là, de l'importance qu'on a eu à avoir donc dans l'accueil, l'accompagnement des demandeurs d'asile. Alors ça rend difficile donc l'évaluation. Il y a aussi des travailleurs temporaires qui viennent à l'invitation d'entreprises, et puis il y a des étudiants étrangers qui viennent à l'invitation d'établissements d'enseignement au Québec. Donc,
non, mais mais si vous ne pouvez pas prédire l'avenir, 2023, on va accueillir combien de personnes? Toutes catégories confondues?
Bien là, on était à 471 000 dans le courant de la fin de l'été. Alors, c'est un nombre qui a été réévalué par Statistique Canada parce qu'ils ont changé leur méthode de calcul et ça a fait en sorte de rehausser le nombre de personnes résidentes non permanentes là, qui sont au Québec, sur le territoire québécois. Et pour l'année prochaine, on n'a pas une idée fixe. Nous, ce sur quoi on a travaillé et qu'on a présenté hier, c'est l'immigration économique, l'immigration permanente qui vient au Québec. Ça, là-dessus, on a un contrôle et on sait combien de personnes vont venir. Mais pour ce qui est des temporaires et des demandeurs d'asile et des étudiants étrangers, on ne sait pas à l'avance les nombres de manière exacte.
Oui, mais ce qu'on observe au Canada, je prends le portrait canadien, plus de 2 200 000 personnes sont des résidents temporaires. Et quand on regarde les étudiants, on n'est pas loin, là, et ça a pratiquement doublé en l'espace de quelques années. Alors, malgré les cibles officielles d'immigrants, autant Ottawa et Québec, là, ce sont des centaines de milliers, pour pas dire des milliers de personnes qui entrent au Canada, puis évidemment au Québec, à chaque année.
Mm-hmm. Effectivement. Puis nous, on juge que ça vient s'ajouter à des seuils d'immigration qui sont trop élevés pour de l'immigration permanente, là, j'entends. Et ils nous ont annoncé hier qu'ils vont aller de l'avant avec un seuil à 500 000 personnes immigrantes permanentes par année. C'est trop. C'est trop parce que si on acceptait là, notre part de notre poids démographique de ce 500 000, ça voudrait dire qu'il faille accueillir 110 000 personnes par année au Québec pour maintenir notre poids démographique à l'intérieur du Canada. C'est beaucoup trop. Il n'y a pas personne dans les formations politiques à l'Assemblée nationale qui va jusque-là. Il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. Là, je suis contente d'entendre le ministre Miller hier dire que la capacité d'accueil, ça commence à être un concept là, avec lequel ils veulent travailler, mais c'est pas juste de le nommer, il faut aussi en tenir compte. Et ça, le Canada ne s'est pas rendu là. Nous, on le fait. On intègre cette notion de capacité d'accueil. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est très serré, particulièrement du côté de l'habitation. Donc, il faut faire en sorte d'être prudent, d'être équilibré dans notre approche. Et c'est ce qu'on a fait hier en vous présentant nos propositions pour les deux prochaines années, à savoir d'accueillir 50 000 admissions régulières pour l'immigration permanente et accueillir également des étudiants qui ont été diplômés au Québec dans un programme en français, là, sans qu'il y ait par ailleurs un chiffre de cible.
Oui. Madame Fréchette, je veux vous faire entendre Stéphane Marion, qui est économiste et stratège en chef de la Banque nationale du Canada, qui était à l'émission de la semaine dernière et qui a mis, je dirais, le projecteur sur un angle mort concernant justement l'augmentation de la population.
Le problème à Ottawa, ou l'enjeu pour Ottawa, c'est l'augmentation phénoménale de la population. Là, on carbure encore avec une croissance d'un million d'individus cette année, après avoir fait un million, ce qui est un record de tous les temps l'année passée. Donc, ça nous amène à un déséquilibre historique par rapport à la demande de logement versus l'enjeu de logement, ce qui reste fait dans l'inflation. Comment vous pouvez, avec les hausses de taux d'intérêt, contrôler cette croissance phénoménale de la population? Je pense que la solution vient d'Ottawa, qui devra vraisemblablement réduire ses quotas d'immigration.
Et je fais entendre un deuxième extrait.
Si vous rajoutez 2 millions de bouches à nourrir en 2 ans au Canada, le beurre de peanut va coûter plus cher. Donc, on peut dire aux épiciers, faites des efforts, mais la réalité, c'est une croissance phénoménale de population qu'on observe dans aucun autre pays de l'OCDE. Donc, c'est la raison pour laquelle la Banque centrale doit moduler ses taux d'intérêt et qu'une partie de la réponse va venir d'Ottawa, non seulement au niveau de ses dépenses budgétaires, mais de recalibrer aussi sa politique d'immigration. Je pense que ce serait bienvenu pour l'ensemble de la population.
Êtes-vous d'accord avec son analyse?
Je partage totalement son analyse. Monsieur Marion fait des commentaires qui vont dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'il faut tenir compte de la capacité d'accueil. Puis j'entends aussi qu'il ajoute que ça fait une pression au niveau de l'inflation. Effectivement, là, le Canada, avec ses seuils d'immigration trop élevés, va contribuer à la hausse de la valeur de l'habitation parce qu'il va manquer de logements, puis également à une hausse de l'inflation. L'explique de très bonne manière. Donc, on partage tout à fait cette lecture-là et c'est ce pourquoi on demande au fédéral de réduire ces seuils d'immigration permanente. 500 000, là, c'est trop. C'est trop, puis ça va faire en sorte aussi que le Québec va perdre un peu de son poids démographique au fur et à mesure des années qui passeront, parce qu'on ne va pas se rendre à 110 000, voire plus de 110 000 immigrants par année. Il faut qu'on respecte notre capacité d'accueil, il faut y aller de manière équilibrée, prudente et graduelle.
Est-ce que vous y voyez une stratégie du fédéral de réduire le poids du Québec? Je dirais pas de noyer le Québec, mais en tout cas de faire en sorte que le poids politique diminue.
J'ose espérer que c'est pas ça l'ambition derrière la stratégie, mais n'en demeure pas moins que le résultat, c'est ça. C'est une diminution du poids du Québec à l'intérieur du Canada. Alors, ne serait-ce que pour ça, je pense qu'il faudrait que le fédéral reconsidère son objectif de 500 000 par année.
Vous l'avez dit, vous recherchez des gens qui parlent français, donc issus de pays de la francophonie. Monsieur Miller a dit hier qu'il veut également avoir des gens qui viennent de pays francophones pour les envoyer ailleurs au Canada pour soutenir, enrichir les communautés francophones hors Québec. Est-ce que ça ne rentre pas à l'encontre de votre stratégie, ça?
En fait, nous, effectivement, on veut accueillir donc des gens qui parlent français et ça, c'est les réformes qu'on a mis de l'avant et qui vont entrer en vigueur à partir de novembre, 23 novembre prochain. On n'est pas contre l'idée qu'il y a des gens qui parlent français à l'extérieur du Québec. Je pense qu'il faut aussi soutenir, appuyer la francophonie canadienne hors Québec. Mais il faut voir qu'il y a un seuil de réparation, je vous dirais, une approche de réparation à y avoir par le fédéral parce qu'ils ont donné des objectifs beaucoup trop bas ces dernières années puis ils ont atteint pour une première fois là, cette année ou l'année passée. Donc là-dessus, il faut qu'ils fassent des efforts davantage, mais on veut qu'ils contribuent aussi à la connaissance du français au Québec. Donc là, hier, on a présenté une demande en lien avec les travailleurs temporaires. Vous savez qu'il y a une partie des programmes de travailleurs temporaires qui relèvent du fédéral et pour lesquels le Québec n'a pas son mot à dire. Le plus gros de ces programmes, c'est ce qu'on appelle le PMI, Programme Mobilité Internationale. Et les gens qui viennent à travers le PMI, donc, n'ont pas d'exigence de connaissance de la langue française. Nous, on a demandé au fédéral hier d'en intégrer dans ce programme-là, comme nous, on va le faire pour le programme de travailleurs étrangers temporaires qui est co-géré avec le fédéral. Et donc, on va demander à ce qu'il y ait une connaissance du niveau 4, là, qu'on appelle connaissance du français, pour ceux qui seront au Québec pour une période de plus de 3 ans et qui voudront renouveler leur permis. Donc, on enjoint le fédéral à faire de même avec le gros programme de PMI. Donc, j'ai hâte de voir ce que le Québec, ce que le Canada va donner comme réponse.
OK. Sans mettre le projecteur sur le fédéral ou le Québec, là, les gens qui naviguent à travers les différents programmes rapportent souvent des difficultés. Par exemple, quand vous arrivez ici, de se trouver un emploi, de se trouver un logement, bref, d'intégrer la société québécoise, ça demande beaucoup. Ça peut prendre quelques années avant de, par exemple, pouvoir vraiment maîtriser le français. Les gens ont de la misère à conjuguer une formation universitaire, par exemple, de haut niveau et des cours de français. Je comprends l'objectif, mais est-ce qu'on tient vraiment compte à la fois des ressources puis de la réalité de ces gens qui viennent vivre au Québec?
C'est important ce que vous nommez là, parce qu'il faut effectivement accompagner les personnes pour s'intégrer, pour les soutenir. Il faut aussi savoir les retenir. Hein. On sait qu'on veut les amener de plus en plus en région. Et ça, pour ce faire, on a signé pas moins de 200 partenariats avec des organisations déployées partout au Québec. On a réouvert, en fait, les bureaux qui avaient été fermés, les bureaux régionaux qui avaient été fermés sous les libéraux, les bureaux régionaux, donc, du ministère de l'Immigration, pour là aussi accompagner les personnes. Il faut faciliter leur intégration en leur faisant connaître les pratiques au Québec, le mode de fonctionnement, comment ça procède, et également les accompagner dans les mesures de francisation. Donc là, hier encore, on a annoncé que les employeurs devront contribuer à la francisation des travailleurs étrangers temporaires. Ils ont accès, ces personnes-là, déjà à des mesures de francisation via Francisation Québec, mais là, les employeurs vont devoir aussi s'engager dans ce processus-là de connaissance du français. On sait que c'est un processus qui est long, qui est ardu, qui demande des efforts. Il faut permettre aux travailleurs étrangers temporaires d'avoir un peu de temps pour ce faire. Donc, on va les accompagner là-dedans. Mais le travail avec les organismes terrains d'accompagnement, d'intégration, de soutien aux personnes immigrantes, ça, c'est déterminant. Et on est au rendez-vous dans le sens qu'on travaille en étroite collaboration avec ces groupes-là, de même qu'avec les villes, les municipalités, les MRC. Vraiment, on a une pléiade de partenariats parce que c'est tout un écosystème qu'il faut activer quand il s'agit de faire de l'immigration une réussite.
Les employeurs sont nombreux à dire « Nous, on aurait aimé qu'il y ait plus de gens qui viennent au Québec. » Premier commentaire. Puis le deuxième, et là, c'est pas dans votre cours nécessairement, là, mais c'est la rapidité avec laquelle les permis de travail sont émis. On n'est plus juste dans des travailleurs qui viennent ramasser de la salade. Là, on a besoin de ces travailleurs 12 mois par année.
Alors, au niveau des entreprises, ben nous, on avait soumis deux scénarios là en mai passé. Dans les deux scénarios, pour l'année 2024, on était sur 50 000 admissions régulières. Donc, c'est ce qu'on a annoncé hier, avec en plus l'admission sans plafond là des étudiants étrangers qui sont diplômés au Québec dans un programme en français. Donc, c'est pour l'année 2025 que là, qu'il y a une petite différence au sens où dans le scénario de rehaussement, on visait 54 000 admissions annuelles. Finalement, on va rester à 50 000 plus les techs diplômés sans plafond. Donc, la différence n'est pas énorme. Donc, je pense pas qu'il faille faire un plat pour cette question-là. Maintenant, vous avez raison de dire que les permis de travail prennent beaucoup trop de temps. Le fédéral a des inventaires importants là qu'il faut réduire pour l'émission des permis de travail. Et j'entends notamment pour les demandeurs d'asile, là, c'est beaucoup trop long pour les demandeurs d'asile d'obtenir un permis de travail. C'est souvent ardu aussi pour tout travailleur étranger qui vient au Québec parce que c'est compliqué. On essaie de travailler à la simplification des programmes, à la réduction des délais, mais vraiment le fédéral doit faire un travail énorme pour améliorer ces processus.
En terminant, on sait que votre collègue à l'enseignement supérieur a modifié ou va modifier les règles pour des étudiants étrangers, des étudiants qui viennent des autres provinces. L'impact peut être perçu comme limité, mais en termes de perception, quand on fait une revue de presse un peu rapide, là, vous n'avez pas peur que le Québec se donne l'image d'une province qui est moins accueillante, qui n'est pas si intéressée à avoir des étudiants étrangers? Je ne dis pas que c'est la réalité, mais je parle de la perception.
Mais je pense qu'on vient clarifier l'idée qu'au Québec, il faille connaître la langue française pour s'intégrer avec succès. Donc, c'est important que ce message-là soit capté parce que sinon, il y aura des mauvaises surprises, soit de notre part comme société d'accueil ou de la leur, parce qu'ils verront que l'intégration n'est pas idéale. Donc, c'est important de faire de transmettre ce message-là à l'effet que la connaissance du français, c'est ce à quoi on travaille. Et on le fait de plusieurs manières. On travaille au sein du groupe d'action sur l'avenir de la langue française avec mon collègue Jean-François Roberge. Et vous allez voir, prochainement, on va vous présenter tout un ensemble de mesures qui vont s'adresser notamment à nos personnes immigrantes, mais également d'autres dimensions qui sont d'importance au Québec pour l'avenir de la langue française. Mais c'est un message qui devait être transmis. Et franchement, on a posé plusieurs pierres en ce sens-là. On a donné accès à la francisation. On a été le premier gouvernement à le faire pour les travailleurs temporaires. Depuis 2019 qu'on le fait, on a mis sur pied Francisation Québec. On a développé nos programmes en matière de résidence permanente pour des diplômés qui sont diplômés de programmes francophones. Donc, de plusieurs façons, bref, on a transmis ce message-là, puis je pense qu'il faut que ce soit bien capté à l'étranger.
Merci, Mme Fréchette. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Christine Fréchette est la ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, faisons le point sur la guerre entre Israël et le Hamas pour une deuxième fois. Le plus grand camp de réfugiés palestiniens de Gaza a été bombardé. On va aller rejoindre tout de suite Clotilde Emrafko, qui est journaliste indépendante. Elle est à Ramallah, en Cisjordanie. Clotilde, bonjour.
Bonjour.
Donc, ça a été confirmé, deuxième bombardement, et pour une deuxième fois, c'est Israël qui a frappé.
Oui, hein, Israël a bien confirmé avoir bombardé le camp de Jabalia, le plus grand camp de l'enclave de Gaza. C'est à peu près 116 000 personnes qui vivent dans des conditions très difficiles. C'est un camp surpeuplé dans une enclave qui est elle-même surpeuplée. Alors, selon les premiers chiffres que donne le Hamas, ces frappes ont fait 195 morts et il y aurait encore 120 disparus sous les décombres. On voyait des images impressionnantes déjà dès mardi, en fait, d'habitants, de voisins du quartier qui sont venus en nombre essayer de déblayer les décombres à mains nues. Alors, ils peuvent peut-être retirer quelques blessés. Il y a plus de 700 blessés pour l'instant. Mais la plupart des corps ont également été ensevelis très en profondeur et ceux-là ne seront peut-être retirés malheureusement que dans quelques mois. Le bilan du Hamas ne peut pas être vérifié hein, dans l'immédiat, mais le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, a dénoncé une atrocité. Alors le Hamas, lui, justifie ses bombardements en disant qu'il a réussi à éliminer un haut dirigeant du Hamas, Ibrahim Biari. Mais on sent que les pertes humaines sont très importantes dans ce camp qui était densément peuplé.
Bon, on a vu une réaction assez rapide quand même des Nations Unies et on laisse sous-entendre, là, c'est une première analyse, que Israël pourrait, avec ses deux bombardements, avoir commis des crimes de guerre.
Oui, exactement. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rapidement dit qu'il était atterré par ces bombardements sur le camp de réfugiés de Jabalia. De son côté, la commission des droits de l'homme de l'ONU a, comme vous le disiez, parlé de possibles crimes de guerre. En fait, les images sont tellement impressionnantes qu'elles ont en fait choqué à l'étranger. Sans le dire exactement que c'était en rapport avec ce bombardement, la Bolivie a coupé ses liens diplomatiques avec Israël. La Colombie et le Chili ont rappelé leurs ambassadeurs. Également, l'ambassadeur de Jordanie a été rappelé et l'ambassadeur israélien en Jordanie a été renvoyé. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un basculement aussi dans l'opinion internationale, notamment du fait que ces frappes ont touché une zone très peuplée. On a vu aussi des images de l'hôpital indonésien qui a accueilli les victimes. On voyait les corps des personnes qui ont été tuées et on voyait notamment de nombreux petits linceuls qui laissent penser que de nombreux enfants ont été tués dans ces bombardements.
Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évacuation des personnes blessées, des Palestiniens grièvement blessés dans bien des cas et des ressortissants étrangers? Il y en a combien qui sont sortis? Qu'est-ce qu'on prévoit là pour aujourd'hui, demain et les prochains jours?
Alors hier, c'était la première fois que des blessés ont pu être évacués de Gaza. Ils étaient 76 Palestiniens qui ont été évacués, donc 46 blessés et 30 personnes pour les accompagner. Et puis en même temps, les autorités en ont profité pour évacuer 300 étrangers et binationaux qui ont pu donc sortir de Gaza via le poste frontière de Rafah qui donne sur l'Égypte. Alors de ce que m'ont raconté les personnes qui ont pu être exfiltrées, c'était un peu chaotique. On avait des centaines de personnes, notamment des personnes qui étaient sur les listes pour être évacuées et qui avaient peur en fait de ne pas arriver à sortir de l'enclave de Gaza. On sent que les gens sont très fébriles. Aujourd'hui, le côté palestinien annonce qu'un groupe de 100 voyageurs détenteurs de nationalité étrangère a pu sortir vers l'Égypte, et le Caire annonce que en fait ils espèrent faire sortir environ 7000 personnes de plus de 60 nationalités différentes. Pour l'instant, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur qui négocie le passage de ces étrangers, et également sur quels critères sont sélectionnés les blessés qui ont été autorisés à sortir. Alors, on se rend bien compte, ceci dit, que 46 blessés sur le ministère de la Santé à Gaza aujourd'hui annonce au moins 32 000 blessés. Donc, on voit bien que ce n'est même pas une goutte dans l'océan des besoins à Gaza. On voit que ces sorties, même si elles sont spectaculaires, puisque c'est la première fois depuis le début de la guerre, sont vraiment infimes comparées à l'étendue de la catastrophe humanitaire actuellement à Gaza.
Merci beaucoup, Clotilde M. Rafko, qui est journaliste indépendante. Elle est à Ramallah, Cisjordanie. On vient ici pour parler du projet de tramway à Québec. Le maire de Québec, Bruno Marchand, a été assez clair hier en disant qu'il n'y a pas de consortium intéressé. Et c'est la Ville de Québec qui va prendre le projet en charge, un projet qui est évalué autour de 8,3 milliards. Monsieur Marchand, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Première question, aucun groupe, aucune entreprise manifeste de l'intérêt. Est-ce que je comprends, c'est que le prix est trop élevé et sont incapables d'aller se faire financer?
Oui, c'est vrai. Alors, la recherche de financement pour amener les cautions, les garanties exigées, n'a pas été possible, n'a pas été concluante, alors que sachant qu'il ne pourrait pas répondre aux critères qu'on exigeait, parce qu'une ville fait ça pourquoi? Pour s'assurer que si une entreprise a des problèmes, ben on se retrouve pas le bec à l'eau avec un projet, les rues éventrées, puis il n'y a plus rien qui avance. Ben ils ont décidé de pas postuler. En même temps, dans les derniers mois, moi je leur avais fait savoir, puis je l'avais fait savoir dans l'opinion publique aussi, que ça pouvait pas être dans le sens qu'ils me donnaient, c'est-à-dire d'arriver avec des montants qui avoisinaient les 12-13 milliards. C'était impossible que la capacité de payer des citoyens nous amène là. C'était impossible qu'on paye ce prix-là. Et que s'il n'y avait pas d'autre solution, nous, on allait en trouver.
OK, mais comment vous partez d'une évaluation à 12 milliards faite par des entrepreneurs à une évaluation, disons, d'autour de 8 milliards? Le 4 milliards de différence, comment vous l'expliquez?
Ben d'abord, les taux d'intérêt et la question de se financer. Comment on se finance? Les villes ont accès à du financement, ont une cote de crédit qui est différente des entreprises privées, ont accès via les gouvernements, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, à des sources de financement qui sont des sources qui nécessitent d'avoir des taux d'intérêt moins élevés. Donc, on paye, on gagne des centaines de millions en taux d'intérêt. La question de la profitabilité. Une ville ne cherche pas à faire du profit. Une entreprise doit le faire et c'est tout à fait normal. C'est pas une critique. C'est ça qu'il faut. Elle veut être pérenne. Elle veut pas mourir après avoir fait un projet comme ça. Il y a des enjeux liés à des incertitudes. Pour une entreprise, de travailler avec des CN, des Bell, des Vidéotron de ce monde, ça amène des incertitudes sur les délais de réalisation, donc des coûts pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se prennent des provisions pour risque. C'est la même chose avec les pénalités. Les entreprises, surtout quand il reste juste un consortium en liste, évidemment, il est moins fringant. Fait qu'il se dit, oh, si je suis, par exemple, j'ai une livraison de retard qui m'occasionne une pénalité de 100 000 $ par jour, ben, moi, je veux pas avoir une pénalité qui va manger mon profit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule à peu près combien je pourrais avoir de jours de retard. 40, 50, 60. Puis je l'inclus dans le prix parce que je veux m'assurer de ma profitabilité.
Okay,
une ville n'a pas à faire ça.
OK, mais M. Marchand, là, c'est tout bien pas les cols bleus de Québec qui vont construire le tramway. Là, vous allez embaucher des entrepreneurs qui vont prendre leur profit. Le 8 milliards d'aujourd'hui, là, à la fin, ça va peut-être finalement être le 12 milliards.
Non. Non, parce que le profit dont je vous parle, et vous avez raison, les entreprises, c'est pas l'école bleue, c'est pas la ville qui va faire le projet. La ville va être maître d'œuvre. Donc, comme quand on fait une maison, on engage un plombier, on engage un charpentier, on engage un couvreur. C'est ça qu'on va faire. On va coordonner les travaux, oui, mais c'est pas nous qui allons les faire. Mais ça va permettre à beaucoup plus d'entreprises de postuler, parce que plutôt qu'avoir un seul et grand contrat, on va en avoir plusieurs petits et des entreprises du Québec. Parce que c'est ça l'enjeu, là. Sur 8,4 milliards, c'est 5,6 milliards qui vont revenir minimalement à des entreprises du Québec et de Québec pour notre économie. Là, c'est un investissement majeur pour nos entreprises. Mais vous avez raison de dire qu'il va y avoir quand même une profitabilité, et elles doivent l'avoir, cette profitabilité-là. Celle qu'on enlève, c'est celle du grand consortium. C'est celle de celui qui coordonne les travaux. Cette profitabilité-là, la Ville ne la prendra pas.
OK. Si on remonte dans l'histoire, la Ville de Montréal avait la responsabilité d'être maître d'œuvre du chantier olympique jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de corruption, puis que c'était tellement mal géré, puis qu'en plus, il y avait l'échéance olympique, c'est Québec qui a récupéré. Sérieusement, est-ce que la Ville de Québec peut gérer cette affaire-là?
Oui. Vous savez, les projets d'infrastructure au Québec, là, c'est pas si fréquent que ça, qui sont gérés sous des formes de PPP, là, ce qui était le projet initial, ce qui a été le cas, ce qu'on pourrait qualifier du cas du REM, là, si on juge que le CDPQ Infra est un partenaire privé ou presque privé, là, un partenaire semi-public, on pourrait dire. Mais il y a le prolongement de la ligne, le prolongement du métro de Montréal a été fait sous cette forme-là. Il y a des projets plus petits à Québec qu'on a fait et qu'on a livré dans les délais, dans les coûts, l'usine de biométhanisation, centrale de police. Il y a des projets comme ça, le centre Vidéotron, que M. Labeaume m'a livré comme ça, dans les délais, dans les coûts. Il y a des exemples concrets qui témoignent de notre capacité de faire, de la compétence, de l'excellence de nos employés. Et à Québec, on a plusieurs exemples. Puis le dernier en liste, c'est les réseaux techniques urbains. On a fait 50% des travaux préparatoires, donc déplacer tout ce qui est en dessous du chemin pour préparer l'arrivée du tramway, l'arrivée des travaux. On a fait 50% dans le respect des coûts et des échéanciers. On regardait ce que les consortiums nous proposaient pour le 50% restant, parce que c'était ça qui était planifié. Puis ça avait pas de comparabilité avec les prix qu'on avait. C'était plus élevé, c'était plus long, c'était plus compliqué. On a récupéré les réseaux techniques urbains. Alors juste là-dessus, on est en plusieurs centaines de millions d'investis, de faits, de travaux, de réalisés, et on respecte les échéanciers. On est sur la coche, comme on dit, et on est capable de démontrer que pour de grands projets, oui, on peut avoir de l'ambition, mais on peut avoir aussi beaucoup de rigueur.
OK. On va parler politique un peu, là. Si on fait une analyse rapide, vous dites, moi, ce projet-là, il va se faire, coûte que coûte, et j'en prends la responsabilité.
Non, pas coûte que coûte.
C'est parce que vous dites à 8 milliards, ça va se faire.
Oui.
À 10 milliards, si vous vous rendez compte en cours de route que vous êtes rendu à 9, pas à 10, pas à 11, allez-vous l'arrêter?
Ben, ça va dépendre de pourquoi. Tout ça, c'est comme si je vous disais, quand M. Labeaume m'avait dit que c'était 4 milliards, est-ce qu'on doit l'arrêter parce qu'il est rendu à 8,4? Il faut tenir compte des conditions. Le monde a changé.
Le prix d'aujourd'hui ne sera pas le même dans 3 ans.
Ben, on verra. Laissez-moi faire le travail. Présentement, on a des évaluations qui vont dans le granulaire et pour lesquelles on n'est pas dans des estimations de lointaines en présumant que, là, on a un travail qui a été fait depuis des mois très rigoureux. Alors, ce que je vous dis, c'est pas coûte que coûte au sens où je viens de vous dire que les consortiums nous amenaient à des prix qui étaient trop élevés. Ça aurait été facile de dire on y va pareil. Non. Okay. Moi, la capacité de payer du citoyen, c'est important.
Si le gouvernement du Québec dit c'est trop cher, comme M. Legault le laisse entendre assez clairement hier, là, autrement dit, on n'ira pas dans un projet qui va coûter 8-9 milliards. Faites quoi?
Ben, c'est quoi la solution? La solution, là, c'est quoi? C'est de dire on repart avec un autre projet. Parce que M. Legault dit il faut un transport structurant pour la ville de Québec. Alors lui, ça c'est la base commune, il faut un transport structurant. Ça fait presque plusieurs décennies qu'on parle de transport structurant à Québec, puis ça fait plus de 6, 7, 8 ans qu'on parle de tramway, puis qu'on parle de mettre ça sur les rails. Alors admettons qu'on recommence la réflexion. On sera pas plus brillant que nos prédécesseurs. Là. Ça va prendre encore 5, 6, 7 ans avant d'arriver au point où nous sommes aujourd'hui, que ce soit avec un métro ou peu importe quel est le transport structurant possible et envisagé et rêvé. Un métro, c'est 4 fois plus cher qu'un tramway. Donc aujourd'hui, là, en argent d'aujourd'hui, on va dire que c'est 32 milliards.
OK, mais si le premier ministre dit « j'embarque pas là-dedans », c'est la fin du projet.
S'il dit qu'il embarque pas là-dedans, on peut pas avancer.
Mais c'est la fin du projet.
On peut pas avancer, il paye 50% de la facture.
OK, mais c'est ça. Mais le projet vient de tomber au feuilleton, fini.
Le projet vient de mourir au feuilleton, vous avez raison.
Est-ce que c'est pas ça, finalement, qui est en train de se dessiner? C'est un projet qui a l'appui de 35% du monde. Vous voulez pas y renoncer, puis vous dites à Québec, peux-tu faire la job à ma place, là, puis m'adon le dernier clou dans le cercueil?
Non. Ah non, c'est pas comme ça que je fais de la politique. Je fais pas de la politique me sauver les fesses. Je fais pas de la politique pour espérer qu'un autre prenne la balle à ma place, là. Je fais de la politique avec une politique de conviction. Pourquoi on fait le tramway? Là? Parce que ça répond à des impératifs économiques. Pour notre économie, là, c'est majeur. Pas juste dans la construction, dans la capacité après d'attirer ici des entreprises. Quand j'étais en Belgique, on m'a dit, on s'installe pas chez vous si vous êtes pas vert. Si on n'est pas de capacité de faire déplacer nos employés quand on va installer notre usine ou notre entreprise de façon sobre en carbone. C'est ça l'économie de demain. Quand on dit aux citoyens de Québec, on veut vous offrir des options pour vous déplacer sobre en carbone, parce que la majorité de nos GES à Québec viennent des transports, puis qu'on n'offre pas de solution, on peut pas s'attendre à ce que les gens prennent tout d'un coup des transports qui n'existent pas. Puis ne puissent pas prendre autrement que leur voiture. Il faut offrir à nos citoyens des conditions pour faire en sorte que s'ils le peuvent, s'ils le veulent, ils vont avoir des moyens efficaces, des moyens faciles d'accès pour se rendre à destination. On n'a pas ça présentement. Alors moi, je crois à cette politique de conviction au sens où on a besoin de ça. On a besoin de ce projet-là. Et si on repart en réflexion, qu'est-ce qu'on vient dire? On remet ça au calendrier grec, on repart pour 5-10 ans de réflexion, puis peut-être que dans 10 ans, on va avoir un autre projet. Puis savez-vous quoi? On va se reparler, vous et moi, puis on va se dire, mais maintenant, c'est plus 8 milliards, c'est rendu 12, 15 milliards. Puis si c'est un autre projet, ça va être 32 milliards.
Okay.
Puis ça, ça sera pas trop cher.
En faites-vous, en faites-vous un enjeu électoral personnel? Okay? Vous êtes le maire de Québec, là, l'élection pointe à l'horizon. C'est pas demain, mais quand même. C'est-tu un enjeu électoral? Pas de tramway, je me représente pas.
Ben non, mais j'espère que ça va être réglé avant. Je peux pas croire qu'en dans 2 ans, on va être encore en train de discuter de ça. Là.
Tout est possible.
Oui, vous avez raison, tout est possible. Mais j'espère que non. J'espère qu'on va... C'est pour ça qu'hier, j'en appelais au sens de l'État. Là. Comment on veut développer cette ville-là? Voyez-vous Montréal sans son métro aujourd'hui? Ben, à l'époque, là, quand les gens ont parlé de construire le métro, le monde était contre. Plusieurs gens disaient, ça va être trop cher, on n'en a pas besoin, ça va bien comme ça. Puis ça a pris des gens pour dire, ben, sans le métro, là, dans 10, 15, 20, 30 ans, là, Montréal ne sera pas ce qu'il sera. Mais c'est la même affaire avec le transport structuré en Québec puis le tramway. Présentement, là, si on ne pense pas pour les 5, 10, 15, 20, 40 prochaines années, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire de la politique où on se concentre sur l'actuel, on se concentre sur l'opinion actuelle, puis on pense pas aux jeunes générations, on pense pas à ceux qui vont nous suivre, on pense pas à l'économie de demain, on pense pas aux enjeux qui, présentement, nous font déjà face, mais qui vont être encore pires dans 10, 15, 20 ans. On va faire ça sur un enjeu électoraliste. Moi, je refuse ça.
Et entre vous et moi, là, je regarde ce qui se passe à Québec à distance, là. On ressuscite le projet du troisième lien sous une forme encore inconnue. On ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Ça va ressembler à quoi? Ça va passer où? C'est le mystère complet. Puis on a un autre projet qui est le tramway où le gouvernement dit déjà c'est pas mal cher votre affaire. C'est assez, disons qu'en termes de développement d'infrastructures, là, vous partez de loin, là.
Oui, mais c'est peut-être, j'espère que non, c'est peut-être des visions du Québec qui s'opposent, dans le sens où moi, je rêve d'un Québec ambitieux, je rêve d'un Québec de bâtisseur, je rêve d'un Québec qui est capable de se dire, quand on investit dans nos infrastructures, là, on se rend service, on accepte de se dire comment on voit l'avenir, comment on pense lointain, comment on pense dans 10, 15, 20 ans, parce que c'est ça qu'on s'attend des politiciens. Parce que les gens, je pense, moi, en tout cas, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont tannés que les politiciens pensent à est-ce qu'on va être réélu, est-ce que le maire Marchand se préoccupe dans 2 ans, il va-tu avoir encore une job? C'est pas important, on fait pas ça pour ça. On fait ça pour dire c'est quoi les enjeux qui nous frappent présentement, comment on fait pour positionner cette ville dans le futur, comment on fait pour faire en sorte qu'on soit encore d'actualité et qu'on soit attractif dans 10, 15, 20 ans alors qu'on va avoir des enjeux de circulation. On évalue que d'ici 2040, on va avoir 100 000 déplacements par jour de plus. On va y mettre où ces gens-là? Quand on va être bouché dans le trafic, notre économie va en souffrir, on va faire quoi? On va dire, hey, Colin, on aurait dû y penser avant. On n'a jamais vu ça venir. Mais c'est pas vrai, on l'a vu ça venir. Puis pendant qu'on le voyait venir, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est assis sur nos mains. On n'a rien fait parce qu'on avait peur. Le maire avait peur que son élection en souffre. Mais l'élection en souffrira. On veut des politiciens. Moi, en tout cas, c'est à ça que j'aspire. On veut de la conviction. On veut une vision. On veut quelque chose qui nous projette dans le long terme et pas juste à assurer sa sécurité. C'est pas pour ça qu'on fait de la politique.
Monsieur Marchand, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci de l'invitation.
Au revoir. Bruno Marchand est le maire de la ville de Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Volet construction et logement. Vous connaissez le discours politique. Nous voulons des logements sociaux, des logements abordables. Il faut investir. On sait très bien que les chiffres sont un peu, disons, arrangés avec le gars des vues pour ce qui est de la ville de Montréal quand il vient le temps de faire un décompte. On lance des appels à tous les paliers de gouvernement. Faut investir. La presse, ce matin, a fait une enquête et découvre que le temps d'attente, puis là, il faut, après ça, décortiquer, là, mais le temps d'attente pour obtenir un permis a augmenté de 34 % au cours des dernières années. Ça varie d'un arrondissement à l'autre. Il y a différentes étapes. Et t'as beau vouloir construire, si la bureaucratie rend ça tellement complexe, que ta décision, en bout de ligne, c'est d'oublier le projet, de renoncer, parce que t'as pas envie de perdre de l'argent pendant des années. Prenons le cas d'un entrepreneur, il s'appelle Thomas Smister, il est PDG de Construction Tomico. Monsieur Smister, bonjour.
Bonjour, monsieur Arc.
OK. Donnez-moi un exemple de projet que vous avez essayé de réaliser à Montréal et qui a été pris, là, comme ça, dans les dédales des permis puis des requêtes.
Écoute, le meilleur exemple, je ne sais pas si je dois nommer la ville en tant que telle, mais disons que dans un arrondissement de la ville, ça a pris 6 ans pour avoir un permis. 1 an, déjà que je trouve ça très long, je vais être capable d'accepter puis de voir avec la bureaucratie. Mais 6 ans, là, ça a été épouvantable. Extrêmement long, des demandes sur demandes. On a émis après une dizaine de versions de plans avec 3 architectes différents, puis à chaque fois, le projet ne passait pas. Puis c'est drôle parce qu'on respectait tous les règlements de la ville.
OK. C'était quoi le projet exactement?
Écoute, c'est assez simple. C'est vraiment assez banal comme projet. C'est la construction d'un 4-plex. Donc, un logement, un bâtiment de 4 logements. Assez bien fait, même on voulait avoir beaucoup de chambres à coucher, etc., pour justement régler un peu le cette faille-là qu'il y avait dans le système d'avoir des 4 chambres à coucher, des 3 chambres à coucher.
OK, puis c'était dans un quartier résidentiel?
Quartier résidentiel, il y avait à peu près 10 de maisons, c'était vraiment dans un cul-de-sac, juste à côté d'une gare de train. C'est que, en tout cas, la ville nous a fait beaucoup, beaucoup d'embûches. Ils voulaient un projet finalement plus petit. Mais là, je leur dis, écoute, moi j'ai acheté un terrain pour faire un 4-plex, donc je vais construire un 4-plex, puis le règlement me le permet. Mais le problème, c'est qu'avec les comités de consultation urbaine, les CCU, mais eux ont le droit d'avoir un avis discrétionnaire. Puis eux trouvaient que ce serait plus beau de construire un triplex ou un duplex. Mais écoute, en pénurie de logements, c'est épouvantable de dire qu'un terrain qui est permis de faire un quatreplex, on veut en faire construire un duplex.
OK. C'est donc 10 de versions, 3 firmes d'architectes. Finalement, est-ce qu'ils ont dit oui à votre projet de 4 logements?
Oui, ça a pris une petite, une petite tourloupe d'année de dire qu'on va construire un triplex, mais avec un logement sous-sol.
OK. Okay. Une fois que le comité d'urbanisme a dit oui, quelle a été la suite?
Ben la suite, ça a quand même été bien. On a eu des permis après 6 ans quand même.
6 ans?
Quand même plus, ouais, 6 ans, plusieurs dizaines de milliers de dollars d'architecture, etc., puis de taxes. Puis en plus, c'est drôle parce que j'ai même eu des contraventions à cause que mon gazon était trop long. Parce que je pouvais pas construire. En tout cas, ça a été... c'est correct, admite. La loi l'oblige, mais c'est quand même drôle que moi, je veux construire, mais je me parce que j'entretiens moi mal mon terrain, mais... Finalement, je veux juste moi faire un bâtiment dessus. Là.
Est-ce que c'est toujours comme ça avec la ville? Êtes-vous un cas d'exception pour Montréal ou pour d'autres villes?
Écoute, ça, là, il a été assez ardu. Par contre, je peux pas. En règle générale, 1 an est à peu près coutume, même si c'est très long. Mais j'ai un autre exemple aussi que justement des dossiers perdus par la ville, des demandes sur des demandes. Tu sais, on est quand même assez habitué à en faire des projets de construction à Montréal. C'est qu'on demande la liste à la ville de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour émettre le permis. Puis finalement, on coche tous les items qui avaient été demandés. Mais une fois qu'on remet le document, justement, j'aimerais aussi avoir un plan d'air civil, un plan de... Là, ils sont rendus aussi très compliqués parce que avant, un plan d'architecte et structure étaient suffisants. Aujourd'hui, pour un bête quatreplex, je ne parle pas d'un logement de 10 logements, une centaine de logements, là, il faut un plan civil, d'ingénierie, électrique, mécanique, structure, architecturale. Écoute, ça n'a aucun sens.
Avez-vous un autre projet actuellement en attente que vous allez réaliser dans 12 ans?
Non, mais par contre, si vous me laissez une petite fenêtre, moi, quelque chose que je vois qui est un problème pour moi et qui va être un problème avec beaucoup d'autres promoteurs, on s'entend pour l'instant, il y a pénurie de logements à Montréal, donc il faut en construire. Nous, on a des projets que malheureusement, on a dû mettre sur la glace, vu que une augmentation de coûts d'après, écoute, épouvantable depuis la pandémie du coût de construction.
Puis les taux d'intérêt.
Les taux d'intérêt ont augmenté. Et les banques, finalement, puis à tout respect pour eux, le montant, disons qu'ils passaient à 80% du montant au final, mais ils révisent à la baisse, vu que les taux d'intérêt ont augmenté, finalement, à la fin du projet, ils passent juste 50%. Donc, on s'entend que ton projet te coûte plus cher, il te passe moins d'argent, puis il sera même pas rentable. Puis je te parle même pas de projets abordables. Je parle des projets qui sont avec des loyers chers, si on peut dire, mais même ça, c'est pas rentable alors qu'on se parle. Puis là, pour l'instant, moi, j'en ai 2 sur la glace, puis le problème, c'est au renouvellement ou à l'extension du permis. Puis pour l'instant, moi, j'ai 2 permis que si je commence pas maintenant, ben il faut que je recommence le processus de permis et de plan, et là, encore là, minimum 1 an. Ça, c'est épouvantable, non?
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thomas Smister est PDG de construction de Tomico. C'est pas que la maison des fous, là. Tu fais approuver ton permis, mais là, des problèmes de financement, il faut que tu recommences le processus. Après ça, on se demande pourquoi, entre autres, il y a cette pénurie de logements à Montréal. Et là, je lisais aussi dans cet article de la presse qu'on a un comité pour faciliter les choses. On aime beaucoup ça à la ville, des structures, des étapes, des congrès, des forums. Là, mais là, c'est une patente pour faciliter les choses. Il y a une décision importante qui a été rendue par la juge Sophie Bourque de la Cour supérieure. Deux citoyens de Kahnawake qui s'étaient fait accuser de fraude par le gouvernement fédéral, fraudés parce qu'ils n'ont pas payé la taxe sur le tabac, parce qu'ils ont fait entrer des camions remorques bourrés de tabac. La juge dit que finalement, c'est une étude complète du dossier, qu'il existe dans ce dossier des preuves que le commerce du tabac auquel les accusés ont participé améliore le bien-être économique et la qualité de la vie de la communauté dans son ensemble. Et c'est une décision importante. Là. Je dis pas que ça va pas se ramasser en Cour suprême, mais quand même. Maître Pierre Lécuyer est avec nous. Il est l'avocat de un des deux qui est impliqué dans cette cause-là, Derek White. Maître Lécuyer, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Racontez-nous un peu les faits en vrac. Là. Les deux qui étaient impliqués dans ce dossier, là, qui faisaient l'objet des procédures du gouvernement fédéral, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement?
En ce qui concerne mon client, c'était ce qu'on peut appeler en anglais un broker pour des livraisons de tabac qui provenaient de la Caroline du Nord, qui atterrissait à Kahnawake et qui était acheminé aux Six Nations en Ontario.
OK. Et là, on parle de grosses quantités.
C'est des camions de 43 pieds, là.
OK.
Et de tabac en vrac.
OK, du tabac en vrac, puis bon, c'était à Kahnawake. La prétention du fédéral, c'est que, c'est une importation illégale, puis on devait payer les taxes là-dessus?
Les taxes d'assises doivent être payées lorsque la cargaison entre au pays. Et bien évidemment, il n'était pas rentré au pays. Ceux qui rentraient, les cargaisons, c'était le TI assisté de la GRC. C'était une opération fantôme pour prendre des trafiquants de drogue et ils sont arrivés sur du tabac par hasard.
OK. Qu'est-ce que vous concluez de la décision de la juge Bourque? C'est-à-dire qu'en pratique, elle reconnaît que ce type de commerce est profitable à la communauté puis qu'on n'a pas à payer les taxes d'assises comme telles.
Ben, faire une étude exhaustive, c'est un jugement de plus de 380 pages. Vous comprenez que j'ai pas eu le temps de lire en entier. La juge Bourque nous a fait un résumé d'une heure et vingt hier matin. En gros, c'est revenir aux traités originaux quand les Européens sont arrivés au Canada. Le fait qu'il y avait déjà un système de justice, un système économique pour les natives qui étaient déjà présents au Canada. Le droit qu'ils ont à une autosuffisance et de s'autodiriger, ce qui est le cas dans plusieurs réserves aux États-Unis et de plus en plus dans l'Ouest canadien.
OK. Je vous pose une question parce que je suis convaincu que les auditeurs pensent à ça. Est-ce que ce jugement-là fait en sorte que on peut, les non-autochtones, aller acheter du tabac, par exemple, à Kahnawake, de façon légale, à la lumière de ce jugement-là. Autrement dit, est-ce que je peux aller acheter des cigarettes là-bas ou pas?
Ça parle pas de ça, mais je veux dire, il y a une hypocrisie politique incroyable parce que il y a beaucoup de manufactures de tabac à Kahnawake. La GRC intervient pas, la Sûreté du Québec intervient pas pour des raisons politiques. De la même façon que deux casinos que l'Auto-Québec dit qu'ils sont illégaux, mais qui opèrent d'une façon, qui ont l'assentiment du conseil de bande et d'un comité de gestion pour les casinos sur la réserve. Ce que les Amérindiens de Kahnawake veulent, c'est d'avoir de plus en plus d'autonomie. Et c'est un peu les conclusions que le juge Bourque en arrive dans son jugement.
Mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'à l'époque, il y avait une interprétation qui était faite par, je pense que c'est le fédéral, qui disait ils peuvent importer du tabac, ils peuvent consommer le tabac, mais consommation personnelle réservée aux gens qui habitent le territoire, ils n'ont pas le droit d'en vendre à l'extérieur. Or, dans les faits, on sait que c'est pas ça qui arrive. Là.
Dans les faits, ce que les policiers, si on parle de la GRC, la Sûreté du Québec et même la police de Montréal, ce qu'ils font lorsqu'ils débutent leur enquête, c'est toujours avec des non-autochtones qui font le commerce du tabac pour revenir aux autochtones. Puis quand il y a des arrestations, jamais ils vont rentrer sur la réserve parce qu'ils n'auront pas justifié les peacekeepers. Alors, ils avertissent les peacekeepers qu'il y a des mandats d'arrestation pour X personnes, ce qui était le cas en 2016 de mon client, M. White. On s'était rendu à la Sûreté du Québec avec des conditions de sa remise en liberté. On a suivi le processus judiciaire.
Est-ce que vous avez l'impression que la cause s'arrête là ou qu'on va aller en absolument, cours d'appel puis en cours suprême?
Absolument pas. Absolument pas. Depuis le début, tout le monde savait que d'un côté ou l'autre, dépendant de la décision de la juge Bourque, si c'était nous qui avions perdu, on avait le mandat d'aller à la Cour d'appel et ensuite à la Cour suprême. Et je suis convaincu que c'est la même position en ce qui concerne l'autre côté.
Parfait. Merci beaucoup, Maître Lécuyer. Bonne journée.
Merci, M. Jurquin.
Au revoir. Maître Pierre Lécuyer, l'avocat de Derek White, un des deux qui est accusé dans cette histoire-là. Mais c'est un jugement important. Les étapes vont suivre, la Cour d'appel, la Cour suprême. Mais ça reconnaît le droit aux Mohawks, donc, d'acheter, de vendre du tabac pour le bien-être de la communauté, puis de ne pas avoir à payer les taxes, tout simplement.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.